Étude du Cantique des Cantiques. Le titre, c'est Attention au sommeil. Attention au sommeil. Et on a déjà envisagé ça une des premières fois lorsqu'on avait vu qu'elle se retrouvait dans l'appartement du roi. Je parle de la Sulamite, au mauvais endroit. Donc, c'était quelque chose de particulier. Alors, on va donc ouvrir le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1er. On va aller jusqu'au verset 5. Et ensuite, on prendra le Cantique 5. Donc, versets 2 à 7. Vous y êtes? Donc, 3, verset 1er. C'est la Sulamite. Elle évoque un rêve qu'elle avait fait à propos d'un rendez-vous avec son bien-aimé. Elle dit: sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Là, elle interrompt longuement son récit pour supplier les filles de Jérusalem. C'est au verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les billes des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Là, la Sulamite décrit de nouveau un rêve, dans lequel elle a entendu son bien-aimé, elle a entendu frapper, elle l'a entendu appeler, elle a le suppliant d'ouvrir tout simplement. Alors elle dit: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes, des gouttes de la nuit. La Sulamite répond au verset 3. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté ou coulé ou découler ou ruisseler la myrrhe de mes doigts. La myrrhe répandue sur la poignée du verrou, c'est le berger qui l'avait déposée. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font les rondes dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Amen. On reviendra sur tout cela. Au chapitre 3, verset 1er, nous avons lu: sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. C'est la nuit, la Sulamite le cherche. Les versets 3 et 5, à partir du verset 2, je dirais qu'ils ont un point commun. C'est la communion avec le bien-aimé. Malheureusement, elle est interrompue. Voyez un petit peu. Chapitre 5, verset 2, elle dit: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ah, c'est la nuit. La Sulamite s'est assoupie, et voilà qu'elle répondra trop tard à l'appel tout simplement du bien-aimé, qui déjà, lui, s'en est allé. Alors, entre ces deux chapitres, il y a un temps d'heureuse communion avec le bien-aimé. Je dirais que nous avons là un exemple, je dirais, de notre vie spirituelle, marquée, hélas, eh bien, par des temps de sommeil, où je dirais que la voix du bien-aimé, nous l'entendons, mais elle ne fait pas d'écho dans notre cœur. Voyez? Et bien sûr, nous nous sentons à partir de là bien vides de sa présence. Ce sont, et on peut le dire comme cela, des temps d'assoupissement, suivis de temps bénis, de communion avec notre bien-aimé. Et bien sûr, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais il pourrait y avoir une communion maintenue, croyez pas? Et il y a des moments où, quelque part, eh bien, tout va bien, le diable nous laisse tranquille, d'où nous sommes sans problème, sans difficulté, et puis là, on a tendance à s'assoupir. Relax, j'allais dire Max. Et tout va bien. Eh oui, eh oui, eh oui. On est bien, allez. Et c'est comme ça. Alors attention, il faut veiller, parce que le diable est toujours un lion rugissant qui surveille, qui veille. Eh oui. Alors, au chapitre 3, verset 1er, la Sulamite cherche son bien-aimé. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Mais voilà qu'il se passe quelque chose. On pourrait dire, c'est bon, mais tant pis, la prochaine fois ou plus tard. Maintenant, elle dit, elle se détermine, elle dit, je me lèverai. Ou encore, selon une autre version, la version synodale, j'ai résolu de me lever. Amen. Quelque part, ça fait appel à notre effort, à nos efforts, hein. Notre capacité de désir qui devient plus fort et à ce moment-là, il faut faire quelque chose, hein. Il semble donc qu'elle s'est ressaisie. Hein, bien sûr, elle a loupé le rendez-vous, il n'est plus là, elle l'a cherché. Mais avant, elle s'est résolue à un moment donné à dire avant qu'il ne soit trop tard. Et c'était déjà trop tard, mais elle ne le savait pas. Voyez. Mais donc, elle s'est ressaisie, elle est partie à sa recherche. Au verset 2, nous constatons que c'est une recherche fiévreuse, hein, tout simplement à l'extérieur. Elle court, elle fait le tour de la ville. Alors pourquoi la Sulamite va-t-elle chercher le bien-aimé à l'extérieur ? Parcourir les rues et les places de la ville, est-ce que c'est raisonnable en pleine nuit, dans la pénombre, pour une femme seule ? C'est pas raisonnable. Vous baladez seule à Marseille la nuit ? Une femme seule ? Un gaillard, ça va ? Un groupe, c'est encore mieux ? Eh oui, eh oui. Alors de même, il arrive que parfois, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous tournions vers l'extérieur pour retrouver, je dirais, cette communion. Communion, bien sûr, c'est l'image de la vie spirituelle. Hein, il faut l'entretenir, hein, parce que sinon, eh bien, elle s'étiole. Hein. Alors, nous avons besoin de Dieu, mais quelque part, nous avons peut-être mis des distances. Nous avons perdu la communion, le contact avec lui. Alors, comme la Sulamite, eh bien, on fait le tour de la ville. Si vous préférez, on fait le tour du monde. Hein. On s'accroche à tout ce qui passe. On cherche auprès de tous ceux qui peuvent, entre guillemets, nous aider. Alors, il nous faut bien réaliser que si notre vie spirituelle n'est pas ce qu'elle doit être, aller ailleurs, hein, dans le monde ou d'une assemblée à une autre, d'un mouvement à un autre, bien sûr, ne sera jamais la bonne solution. Amen. On a entendu à des moments, il y a le réveil à Toronto. Puis tout le monde est revenu de Toronto. On a entendu qu'il y avait le réveil, je ne sais plus, dans tel pays. Alors on est allé en Corée. Et puis on est revenu de Corée. La Corée, ça fonctionne toujours. Ceux qui sont revenus de Corée, ils fonctionnent moins bien. Parce que le Seigneur visite là où son peuple se trouve. Amen. Et je crois que ce soir, il est là. Amen. Alors, nous pourrons hélas bien trouver des tas de choses. Il y a comme cela des fantaisies spirituelles, des délirantes, hein, pour certaines. Il y a également des hérésies doctrinales qui sont dangereuses. Il y a également, excusez-moi, mais tout en se faisant passer pour évangélique, des sectes. Il faut faire gaffe, bien sûr. En fait, le vrai problème, c'est quoi ? C'est notre relation avec Dieu. Amen. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma communion avec le Seigneur ? Est-ce que j'ai su entretenir le feu, l'amour ? Est-ce que j'ai su garder quelque part contact avec lui ? Ou est-ce que pour diverses raisons, eh bien, je me suis retrouvé comme cela, dépourvu de cette chaleur, de cette présence ? Amen. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, nous avons cette promesse, elle est magnifique. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est une promesse. Dieu n'est pas en train de supplier le peuple, mais il dit, voilà, si tu me cherches, tu me trouveras. Il n'est pas en train de dire, cherche-moi. Parce que quelquefois, on aimerait que Dieu nous supplie un peu. C'est nous qui devons le supplier. Croyez pas ? Donc nous avons besoin, quelque part, de saisir ces promesses, de les faire nôtres, de nous en souvenir, de les repasser dans notre cœur, et quand ça ne va pas, de dire, mais Seigneur, à combien de distance je suis de ta promesse ? Eh oui. Alors lorsque notre vie spirituelle n'est plus ce qu'elle doit être, ne cherchons pas à droite, à gauche, ce que seule notre communion établie avec le Seigneur peut nous donner. C'est mon temps de communion avec Dieu qui fait que je serai fort ou faible, que je serai épanoui ou pas, que je serai heureux ou pas dans les voies du Seigneur, dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours. Amen. C'est ma communion avec lui qui va tout changer. Amen. Chapitre 3, verset 3, donc du Cantique des Cantiques. Nous voyons que la Sulamite, eh bien, elle n'a pas trouvé tout de suite son bien-aimé, mais elle a rencontré les gardes. Alors la version synodale dit ceci, ils m'ont trouvé les gardes. Je ne sais pas si elle criait dans les rues, mais en tout cas, ils sont venus voir ce qu'elle faisait. Ils l'ont trouvé, bien sûr. Alors dans ce chapitre 3, la Sulamite attire simplement l'attention des gardes. Vous voyez ? Elle les interroge. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Il ne se passe rien. Cette première rencontre avec les gardes, je dirais, c'est comme un simple avertissement. On en parlera tout à l'heure du deuxième. Hein. Et nous verrons plus loin que cette rencontre aura des conséquences pour elle. Alors après avoir interrogé les gardes, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils ne répondent à rien, hein, la Sulamite retrouve son bien-aimé. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. En fait, le bien-aimé, il n'était pas très loin. Hein. Amen. Ça me rappelle une chose, c'est que le Seigneur, lui aussi, il n'est pas bien loin de nous. Hein. Des fois, en disant, mais Seigneur, où es-tu ? Oh, Seigneur, il est loin, je ne comprends plus. Non, non, il est là, mais quelque part, il attend ce que je vais appeler l'aspiration de notre âme. Est-ce que je, comme tu disais, avoir soif du Dieu vivant ? C'est cela exactement. Est-ce que j'ai vraiment soif de lui, soif de sa présence, soif de sa réponse ? Amen. Et on retrouve l'aspiration dans l'âme de la Sulamite. Hein. Elle dit, je me lèverai, je chercherai. Vous voyez, elle a pris, c'est quelque part une disposition qu'elle a prise intérieurement. Elle dit, je vais me lever et je vais aller le chercher. Parce que je veux le trouver. Amen. Au verset 4, donc elle dit, je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alors ce passage nous fait penser à une autre rencontre. Celle de Jacob, hein, dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 26, et sa réaction après l'angoisse de son cœur, vous savez qu'il a combattu. Eh oui, il a combattu contre l'Éternel. Hein. Bon, il n'est pas sorti indemne, hein, puisqu'à partir de là, il était boiteux. Hein. Bon, il était peut-être moins fier, hein, certainement moins fier, moins roublard. Parce qu'il a été bon, le gars. Hein. Eh oui. Il a réussi à rouler tout le monde. Hein. Son père, son frère. Oh, il y a eu l'aide de la mère au départ, mais après, il n'y a plus maman. Et par contre, il a réussi à roubler son beau-père, qui lui était un roublard aussi. Eh oui, on trouve toujours plus fort que soi. Hein. Mais là, il a trouvé le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu as vaincu. Hein. En fait, il a bien résisté, il a bien combattu. Et il fallait cela parce qu'il fallait rencontrer son frère maintenant, qui lui, certainement, avait d'autres intentions. Mais Seigneur, c'est travailler les cœurs, vous voyez. Alors, il dit, dans l'angoisse de son cœur, il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Puissions-nous dire cela. Petite anecdote, hein. Dans une partie de l'Afrique, on avait semé, hein, on avait labouré, on avait semé, et il fallait qu'il y ait de l'eau. Il fallait arroser. Et voilà qu'était organisée une soirée de prière pour que la pluie descende du ciel. Parce qu'il fallait maintenant, hein, avant que toutes les semences soient mangées par les animaux, les oiseaux et autres. Donc là, eh bien, la réunion de prière, ce soir-là, on voit arriver une enfant, hein, une adote, avec un parapluie. Tout son niveau, tu vas avec ton parapluie. Mais on est venu à la réunion de prière pour qu'il pleuve. Ok, elle a pris ses précautions. La sortie de la réunion de prière. La seule qui avait raison, c'était elle. Elle a ouvert son parapluie, elle est partie. Ça riait moins en face. Hein. Parce que passer à travers les gouttes, quand ça tombe, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est ça, vous voyez. Quelque part, est-ce que nous croyons vraiment quand nous prions ? Hein ? Eh oui. Chez Jean-Marc, ils étaient en train de prier. Libère Pierre, libère Pierre ! Quand Pierre se présente à la maison, il n'est pas allé ailleurs. Hein, il savait que c'était là qu'il fallait aller. Hein. Comme quoi, on sait très bien où il faut aller hein, quand on est dans le besoin. Pierre, il sort de prison. Où est-ce qu'il va ? Chez Jean-Marc. Il frappe. Hein. On a dit, mais c'est un ange. Et quand elle a dit à l'intérieur, dehors, il y en a un qui ressemble à Pierre. On a dit, mais t'es malade. Attendez, il venait quoi ? Il était en train de prier pour la libération de Pierre. Il y a pas une incohérence là ? Eh oui, eh oui. Alors la Sulamite ne veut pas lâcher son bien-aimé jusqu'à ce qu'elle l'ait amené dans la maison de sa mère. Alors, lorsqu'une jeune fille en Israël allait être épousée, c'est ce qu'elle faisait. Mais ici, bien sûr, Eh bien, la chambre peut nous parler de notre naissance spirituelle. Ce sont les paroles et l'Esprit de Dieu qui nous ont fait naître. Amen. Ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'on l'a voulu. C'est Dieu qui nous convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui nous visite, qui nous éclaire, qui nous donne le renouvellement de l'intelligence, la compréhension des choses spirituelles. C'est d'ailleurs l'apôtre Pierre qui dira dans sa première lettre, chapitre 23, « Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et dans Jacques, chapitre 1, verset 18, nous lisons « Il vous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité. » C'est pourquoi l'assise de notre vie spirituelle doit être la parole de Dieu et doit demeurer la parole de Dieu. Quand on vous dit quelque chose, avant de le prendre comme argent comptant, vérifiez. Que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans ce domaine-là? C'est important, hein? Ainsi, lorsque notre communion avec le Seigneur a été interrompue, que nous ne sentons plus sa présence, eh bien, là où nous devons aller, c'est vers sa parole. Nous devons revenir tout simplement à la méditation, donc la lecture, la méditation de sa parole. Et dans Galates, chapitre 4, verset 26, il est écrit que la Jérusalem céleste est notre mère. Hein. L'expression « amenée dans la maison de ma mère » pour nous peut signifier jusqu'à la maison de la présence de Dieu en méditant sa parole dans un esprit de prière, de supplication. Amen. C'est important, mais c'est ces choses de base, hein. Alors, verset 5, nous lisons « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Ce verset, vous verrez, il est répétitif. Hein, c'est, vous l'avez au chapitre 2, au verset 7, chapitre 3, verset 5, chapitre 8, verset 4. Ils sont tous marqués par cette expression « Il faut qu'elle le veuille. » C'est-à-dire que ça doit venir d'elle. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, je ne crois pas aux conversions forcées. Allez, lève-toi, c'est pour toi, le Seigneur t'a parlé. La personne ne le sait si le Seigneur lui a parlé. Non? Eh oui. Laissez tranquille les gens. Quand le Seigneur se saisit d'eux, tout change. Amen. C'est le miracle qui se produit. Amen. Donc il faut qu'elle le veuille, ça doit venir d'elle. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur ne nous imposera jamais quelque chose. Il ne nous imposera, excusez-moi, mais jamais son amour. Il ne forcera pas à l'aimer. Et cette communion avec lui doit être désirée. Amen. Ma mère me disait toujours, tout petit, parce que j'étais très difficile pour manger, « Mange, l'appétit viendra en mangeant. » Mange. Ma mère sortait tous ses boutons, et je comptais les rouges. Je sortais les rouges, je sortais les verts, je sortais les bleus, les blancs. Et pendant ce temps, hop, une cuillère. Ah, j'étais pénible. Elle me dit, tu te rappelles pas chaque fois? Mais maman, j'en ai déjà mangé ça? Oui, t'en as déjà mangé. Et c'était répétitif, chaque repas. La croix et la bannière, elle me dit. Mais voyez un petit peu, le Seigneur, lui, il désire tout simplement que nous ayons cette soif de lui. Amen. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui, si quelqu'un entend ma voix, pardon, et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'y a-t-il pas là, allez, une magnifique sollicitation de la part du Seigneur? Je frappe, je me tiens à la porte là, je suis là, je frappe. Tu entends ma voix? Allez, ouvre, ouvre. Il ne veut pas nous obliger, mais il ne veut pas nous supplier non plus. Mais il nous dit, voilà, je suis là. Moi, j'ai envie de rentrer dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, parce que je veux avoir ce temps avec toi. Je veux te, quelque part, embellir ta vie, je veux l'enrichir, parce que c'est ce qui se passe. Hein? Amen. Alors, au chapitre 5, verset 7, la Sulamite va connaître des problèmes, hein, avec les gardes déjà cités, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. La version synodale traduit, ils m'ont trouvé les gardes, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé le voile, les gardes des murs. Alors, ces gardes, moi je le crois, représentent ce que j'appelle les instruments de la discipline de Dieu. Quelquefois, pour comprendre la leçon, Dieu est obligé de nous faire passer par, une complication terrible, pour ne pas dire autre chose. Un vent contraire, voilà qu'on se ramasse par terre. On s'en prend une. Des fois, c'est même quelqu'un qu'on aime qui devient l'instrument de Dieu pour nous discipliner. Et on apprécie moins. Quand c'est un étranger, ça va, on prend. Mais ils vont prendre. Amen. Et les gardes font leur travail, eux. Leur rôle, c'est de garder la ville, de veiller sur la population. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont des ordres. Donc, ils vont exercer une discipline. Et on lit dans Apocalypse 3, 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, dit le Seigneur. » Amen. Est-ce que le Seigneur t'a repris? Jamais? Bien sûr que si. Moi, j'ai été repris quelques fois. Hein, je peux vous le dire. On retient, on ne replonge plus derrière. Hein. Ailleurs, autrement, sur autre chose. Mais on s'en souvient, ça fait mal. Est-ce que vous corrigez vos enfants? Ou pour vous qui avez de l'âge, est-ce que vous avez corrigé vos enfants? Vous devez en voir le résultat maintenant. Parce qu'un enfant qui a été éduqué, corrigé, qui a été redressé quand il fallait, eh bien après il nous fait plaisir. Amen. Contrairement à celui qui a été livré lui-même. Amen. À qui on a tout passé, à qui on a dit tout va bien, allez fais ce que tu veux. Allez, éclate-toi. Ben, il s'éclate. Pour de bon. Hein? En tout cas, nous le voyons. Dieu dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, c'est extrait de la parole vivante de Cuen, donc c'est du verset 4 au verset 8, et j'ai pris également le verset 11. Je lis, après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Vous avez bien entendu, d'encouragement. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction, quel est le dos de tous les vrais fils? Vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. Verset 11. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont laissés ainsi former un fruit précieux. Une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. Acceptez l'épreuve comme étant véritablement la discipline. Dans ce cas-là, elle est une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Vous croyez que Dieu vous aime? Qui le croit? Levez la main. Alléluia. Moi aussi. Hein? Si je crois qu'il m'aime, comme je sais que son rôle c'est de me garder jusqu'au bout, c'est de me préserver le plus possible, des fois il ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, eh bien il va faire en sorte quelque part de me redresser, et de m'empêcher d'aller là. Et moi j'ai envie d'y aller. Et chaque fois, je suis pas bien, je suis en porte-à-faux, je suis dans déséquilibre, je me fais mal, je me heurte à quelque chose, vous voyez. Quelqu'un vient, il s'en prend à moi, je sais pas pourquoi, j'ai rien fait. Mais t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit. Tu as créé une situation parce que tu n'es pas au bon endroit. Et à partir de là, eh bien, il faut pas s'étonner que ça aille pas, qu'on soit pas bien. Et que quelque part, on met des distances. Dieu peut pas nous suivre là où il veut pas que nous allions. Là où c'est pas bon pour nous. Amen. Alors ici, le Seigneur permet parfois des gardes qui nous blessent un peu. Mais c'est toujours pour notre bien quand le Seigneur nous reprend. Au chapitre 5, verset 2, la Sulamite dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Une autre traduction, une autre version traduit ainsi « Je dors, mais mon cœur veille. » Donc, il n'y a pas d'abandon. Le cœur de la Sulamite, il veille. Elle entend la voix du bien-aimé. Malgré tout, eh bien, elle est endormie. Alors, comment dormir et veiller à la fois? Pas facile, hein? Veiller et dormir à la fois. Ceux qui arrivent, chapeau. C'est pas évident, ils ne dorment pas. Hein, bah, je sais, quand j'étais pompier, celui qui était au standard, par exemple, est arrivé de descendre du premier étage en courant l'escalier et répondre à sa place parce que, eh bien, il y avait un appel où il y avait la gendarmerie, où il y avait la police qui nous appelait et il fallait intervenir, quoi. Et le collègue, lui, il veillait normalement. En fait, il dormait. Et moi qui devais dormir dans la chambre, eh bien, je veillais. Vous voyez? Et oui, parce que j'étais plus sensible comme ça. Hein. Voilà. Mais voilà. Alors, elle entend. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Savez, le Seigneur nous invite à réagir, à nous réveiller. Amen. Il désire que nous prenions conscience des temps difficiles que nous vivons. Parce que les temps que nous vivons ne sont pas si faciles que ça. Hein. Amen. Romains 13, verset 11. Cela importe peu, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous, verset 14, du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc c'est l'heure de se réveiller, hein? Vers chapitre 5, verset 2, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, mon amie, etc. La Sulamite, elle connaît la voix de son bien-aimé. Elle sait que c'est lui qui frappe, qui appelle. Amen. Nous aussi, nous savons reconnaître la voix du Seigneur lorsque le Saint-Esprit nous visite. Amen. Nous le savons. Et est-ce que nous réagissons chaque fois de la bonne manière? Au quart de tour. Des fois, hein, on se fait un petit peu tirer l'oreille. Hein. Eh oui, la Sulamite a reconnu la voix de son bien-aimé. Mais moi, je pense une chose là, c'est qu'elle n'était pas prête pour répondre à son appel et accueillir sa venue. Amen. Nous connaissons l'exemple de la parabole des 10 vierges, hein. Tout simplement, hein, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, vous le lirez chez vous. Et ce texte, bien sûr, nous parle de la venue ou du retour du Seigneur avec une exhortation particulière, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et vous savez ce qui s'est passé sur les 10 vierges, 5, il n'y a pas longtemps, ça a été dit, hein, ce week-end, je crois. Hein. 5 avaient de l'huile, donc vous avez fait des réserves, provisions. Vous êtes avertis, finalement. Elle était consciente qu'il fallait faire quelque chose. Et les cinq autres, un peu fofolles, eh bien, elles n'ont pas su faire des réserves, s'y préparer. Et quand l'époux est venu, ben, il n'y avait pas assez d'huile pour les deux. C'est-à-dire pour les 10, hein, pour les deux groupes, je parle. Hein, vous voyez, vous avez compris. Hein. Eh oui. Alors, ça nous incite à veiller. Hein. Quand est-ce que revient le Seigneur Jésus? Vous dites, on aimerait savoir, hein, Robert. Ce serait intéressant, hein, de savoir. Hein. Mais on ne sait pas. Et on ne peut pas le savoir. Il dit que même le Fils ne le sait pas. Seul le Père. Au chapitre 5, verset 3, la Sulamite poursuit en disant: j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Vous vous rappelez ceux qui sont invités aux noces du roi, je crois, du fils du roi. Hein. J'ai acheté une paire de bœufs, je vais les essayer. Vous n'essayez pas les bœufs avant de les acheter, là. Hein, j'ai acheté un champ, je vais le voir. Hein, je vais voir où il se situe. Mon œil. Hein. L'autre, il vient de se marier. Ça y est tombé comme ça dessus. Oh. Vous voyez? Non, c'est particulier. Mais c'est quelque part, c'est des excuses misérables qu'elle a, elle aussi. Hein. Elle s'entend bien qu'elle est endormie. Hein. Qu'elle n'est pas prête justement à recevoir son bien-aimé. Alors ceci pour nous faire réfléchir sur parfois nos attitudes, hein, nos réactions négatives qui s'opposent à notre communion avec le Seigneur. Ces obstacles que nous-mêmes, eh bien, nous allons créer, qui vont nous empêcher de pouvoir nous approcher réellement de lui. Vivre une communion allez, intime, personnelle avec le Seigneur. Amen. Et comme ça, nous pouvons ainsi laisser passer un moment de visitation. Oui. Parce que nous avons allez, autre chose à faire. Seigneur, ce n'est pas le moment. Il est maître des temps et des moments. Et nous, on va lui dire, tata, c'est pas le moment, tu le sais, hein. Non, il sait que c'est le moment. Vous voyez, et nous, on est un petit peu contrariants là-dessus, hein. Et bien sûr. Alors oui, nous devons répondre aux appels du Seigneur. prendre le temps de rester avec lui, de le laisser agir dans notre vie. Au verset 2, le bien-aimé dit « Ouvre-moi ma sœur, mon ami ». Comment est-ce que nous réagissons aux appels d'amour, allez, je vais le dire, pressant de notre bien-aimé? Comment est-ce qu'on réagit, hein? N'avons-nous pas parfois la même attitude que la Sulamite? Eh oui. Pourquoi il nous faut comprendre qu'il est important de répondre à son appel? Important. Le jeune Samuel l'a répondu. Il s'est levé chaque fois, il est venu voir, même s'il ne comprenait pas, s'il ne savait pas. Si lui, alors lui, il émergeait complètement. Hein. C'était l'innocence même. Eh oui. Mais c'est lui qui va ramener le réveil parmi Israël. Il est à l'origine d'un puissant réveil. Hein. C'est devenu une référence. Amen. Verset 4. « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Mais elle ne répond pas avec empressement à son appel. » C'est terrible comme réaction. Parfois on sent, c'est fort. D'autres viennent également nous encourager et puis nous restons. Ça, c'est de Dieu. Tout le monde est là et d'accord. Et il n'y en a qu'un qui dit, plus tard, trop de monde ici. Non, laisse-moi. Eh oui, c'est un petit peu la réaction. Mais j'exagère hein, quand je dis ça. Ça ne peut pas arriver. Hein. Si, ça peut arriver. Bon, allez. Il y a un homme dans la Bible qui, lui, il a répondu avec empressement à la visitation que le Seigneur lui a fait. Il s'agit d'Abraham. Genèse chapitre 18, verset 18, je lis. « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux. » Oui, l'empressement, il répond. C'est quelque part un appel, ils arrivent. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Allez, au taf. Hein. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Vous avez vu un petit peu la promptitude, hein? Ça a été instantané. Il savait que c'était le Seigneur qui passait par là. Il voulait la bénédiction. Il en avait besoin. Amen. Et je ne vais pas le laisser passer maintenant. Il est là. Après, il faut que je cours après, que je vais à droite à gauche. Il est là. Alors j'en ai besoin. Amen. Et lorsque le Seigneur passe auprès de nous, que nous soyons un petit peu comme Abraham. Amen. Mais trouvons aussi dans la Bible des exemples négatifs qui ressemblent à l'attitude de la Sulamite. Je pense à celui qui se trouve dans Marc, chapitre 14, verset 32. Je lis, ça se passe à Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, à cette heure, s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est loin de nouveau. Et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Et il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant. Allez, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Ils n'ont pas su veiller. Nous savons que les disciples ont connu ensuite, quelque part, des voies de conséquences, relation de cause à effet, je ne sais pas, mais des heures difficiles. Quelque part, ils voulaient que se tienne à la brèche avec lui. Amen. Il voulait qu'il se tienne à la brèche avec lui dans la prière. Alors rappelons-nous un petit peu les larmes amères versées par Pierre. Hein. Mais oui, quand il est pris à défaut. Hein. Alors que le Seigneur lui avait dit, Satan te cherche et te crible comme le froment. Mais moi, je vais prier pour toi. Et encore, il se tient éloigné. Il n'y a que Jean qui a su l'accompagner. Hein. Mais les autres, ils étaient tous dispersés. Hein. Et lui, il va renier le Seigneur. En fait, pour lui comme pour les autres. Je dirais qu'il n'a pas su saisir le moment de prière qui était si important à Gethsémané. Il n'a pas su. Ils n'ont pas su reconnaître ce moment-là. Vous savez, le Seigneur connaît les moments difficiles que nous aurons à vivre. C'est pourquoi, justement, il faut, lorsqu'il vient nous visiter par son esprit, eh bien, savoir les reconnaître, ces moments, afin que nous soyons prêts à affronter ces temps difficiles. Amen. Un autre exemple, et je vais conclure, celui-ci est positif. C'est avec Marthe et Marie, Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Formidable. Hein? Mais le Seigneur répond « Marthe, Marthe !» Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire pour pas grand-chose. Hein? Eh oui. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En tant qu'enfant de Dieu, quelque part, nous avons besoin de reconnaître les priorités ou de les connaître. Il y a des choses, ok, il faudra les faire un jour. Mais il y a des moments où il nous faut être là. Amen. C'est le temps de Dieu. Dieu s'occupe de nos affaires quand nous nous occupons de son royaume. Quand quelque part nous occupons de notre vie spirituelle, Dieu prépare à côté de nous tout le reste. Amen. Il dégage l'adversaire, il fait reculer, il aplanit les chemins. Amen. Parce que le plus important, c'est la communion avec le Seigneur. Amen. Et leur communion avec Jésus, leur écoute de sa divine parole, quelque part, les ont préparés à l'épreuve terrible qui allait suivre. C'était la mort de leur frère Lazare. Amen. Et oui. Et lorsque Jésus revient à Béthanie, eh bien, leur foi va s'exprimer en des termes sublimes. Jean chapitre 11, versets 21 et 22. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jusque-là, ça paraît négatif. Le plus important, c'est le verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et elle pouvait dire cela, hein, d'où venait la foi dans la personne de Jésus? Parce qu'elles avaient entendu. Parce qu'elles avaient pris le temps de rester dans la présence de Jésus. Parce qu'elles ont accepté cette visitation lorsqu'il est venu les voir. Et comment, des moments de communion avec lui, c'était avant l'épreuve. Je vous lis quelque chose comme ça, parce que je l'ai vérifié plusieurs fois. Des jeunes convertis, rapidement baptisés dans le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, là tu es en train d'équiper quelqu'un parce qu'il va passer par des difficultés. Et ça, je l'ai vérifié quantité de fois. Donc là, j'ai un œil particulier sur cette personne. Je l'entoure de mes prières. Parce qu'elle va avoir besoin de moi. Amen. C'est des choses que j'ai pu vérifier tout au long de mon ministère. Quand une personne nouveau-née s'engage, se fait baptiser, s'engage de tout son cœur à suivre le Seigneur, et que vous la voyez rapidement être baptisée, remplie du Saint-Esprit, vous pouvez dire, oh, toi, il se prépare des temps difficiles. Alors, on a besoin d'entourer. Je ne vais pas la voir et lui dire, mais moi, avec le Seigneur, je sais. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors la Sulamite, elle a trop attendu. Elle a laissé passer le moment de la visitation, chapitre 1, verset 5. J'ai ouvert, mais mon bien-aimé s'en est étalé. Il avait disparu. Vous voyez ? Maintenant, le désir. Mais c'est trop tard. Vous aimez les regrets, vous ? J'avais su. Vous en connaissez des phrases comme ça ? Pourtant, je savais. Ben oui. Eh oui, Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour en tenir compte, hein? Vous savez, lorsque nous sommes rassemblés, qu'il y a des moments où on a des visitations, on sent la présence de Dieu. Il y a toujours des moments intenses de visitation, hein, à ce moment-là. Eh bien, c'est des moments qu'il faut saisir. Pas bâiller aux corneilles, pas se laisser disperser, hein, parce que des cultes, ils sont bénis quand? Quand nous sommes tous, je dirais, au diapason avec le Seigneur. Amen. Si nous venons tous chargés le dimanche matin, ça va être un culte qui va être d'une lourdeur. Wow! Et là, je plains celui qui est là, celui qui fait chanter, pour nous décrisper un peu. Je plains celui qui prêche, parce que pour l'avoir vécu, quelle différence quand nous venons le cœur léger. Parce qu'on a laissé au pied de la croix tous nos soucis. Amen. Toutes nos difficultés. On vient parce qu'on vient pour se rencontrer avec le Seigneur. On vient pour élever son nom. Amen. Donc avant, on lui a demandé de tout prendre. Allez Seigneur, ça tu le prends, ça tu le prends, ça tu le prends. Parce que moi je vais être léger pour m'élever vers toi ce matin. Amen. Et à ce moment-là, oui, on a des cultes bénis. Alléluia. Et je finis avec ça. Vous savez, certains ne réagissent pas au moment des visitations. Ils font la même triste expérience que la Sulamite au verset 6. J'étais hors de moi quand il me parlait. C'est-à-dire que c'était bon, il fallait. Hein? Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Ça, c'est des regrets. Vous aimez partir le dimanche à midi, là? Je croyais qu'il allait me parler. Je croyais que c'était ce matin. Mais comment tu es venu ce matin? En disant, ce sera toujours pareil. Hein? Mais non, non, non. Viens le matin en disant, Seigneur, ce matin, toi, tu vas me faire du bien. Moi, d'abord, je veux lever ton nom. Hein? Je veux réjouir ton cœur. Alléluia. Alors, soyons vigilants, attentifs aux sollicitations du Saint-Esprit, afin de ne pas perdre ces moments précieux de rencontre avec le Seigneur. Hein? Amen. Vous vous rappelez le titre? Attention au sommeil. Ça vous gagne d'un coup. Et même au volant, moi ça m'est arrivé. Hein. Tout d'un coup, vous vous réveillez, vous avez froid dans le dos. Parce que vous dites, la végétation n'est plus la même. T'étais pas pareil il y a quelques instants. Ouf, on est sur la route. Une nuit, on descendait de Paris. Moi, j'avais travaillé jusqu'à 1h du matin. C'était ma veillée. C'était mon rôle, quoi, jusqu'à 1h du matin. J'avais dit à Marie-Paul, mon épouse, je vais conduire tant que je peux. Puis dès que je vois que ça baisse, je te laisse le volant, toi, dors. On faisait Paris-Béziers d'une traite. Hein. On préparait le mariage. Je m'endors à côté d'elle. Et tout d'un coup, j'ai senti la voiture. C'était pas normal ce qui se passait. La voiture le faisait. On était sur l'autoroute, hein. L'autoroute A9, près de Montpellier, on était. C'est presque arrivé, hein, vous voyez. J'ai même pas ouvert les yeux, j'ai dit. De toute façon, c'est trop tard. Puis Dieu nous a épargnés. Amen. Elle me dit, j'ai donné un coup de volant et la voiture s'est remise droite. Bon, je crois que Dieu envoie des anges des fois aussi, hein. Amen. Je vous raconterai un jour des choses qui me sont arrivées. Mais le Seigneur veille sur nous. Lui, il est attentif. Si nous pouvions nous faire de même. Amen. Veillez nous-mêmes sur notre vie, sur notre relation avec lui. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci de nous avoir encore parlé ce soir.